ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय।
वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
ॐ
भगवते
नमो
वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। श्री प्रभुपाद की जय।
जय।
Alors, Virginie, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Oui,
On commence le verset 6.34, Bhagavad Gita.
Verset 6.34. Bhagavad Gita. Chamchalam Himana Krishna Pramati Balavad Dridam Tashyaham Nigraham Manie Vayor Ivashu Rukshikaram. Chamchalam, mouvement. I, self, mana, le mental. Krishna, ô Krishna. Pramati, impétueux. Balavat, très fort. Vridam, obstiné. Tashya, sa, aham, je. Nigraham, soumission. Manie, pense. Vayo, du vent. Iva, comme. Sou, douche. Lushikaram, difficile. Le mental, ô Krishna, est mouvant, impétueux, puissant et obstiné. Le subjuguer me semble plus ardu que maîtriser le vent. Teneur et portée. Le mental est si puissant et si obstiné qu'il domine parfois l'intelligence, quand il devrait toujours lui être subordonné. Pour l'homme d'aujourd'hui confronté dans la vie quotidienne à tant d'éléments contraires, il s'avère très difficile de soumettre le mental. Il peut se montrer superficiellement impartial envers amis et ennemis, mais au vrai, nul matérialiste ne possède un tel équilibre mental, plus difficile à obtenir que de maîtriser un vent déchaîné. Les écritures védiques, Katha Upanishad 1.3.3-4, proposent l'analogie suivante.
Sorte
Atmanam,
le sanskrit.
l'âme est le passager, le corps matériel, le char. L'intelligence est le cocher, le mental les rênes et les sens les chevaux. Ainsi, l'âme jouit ou souffre par l'intermédiaire du mental et des sens. Telle est la vision des grands penseurs. Le mental, bien évidemment, doit être dirigé par l'intelligence. Mais les rôles sont souvent inversés, tant il a de puissance et d'obstination. Il est un peu comme l'infection pernicieuse qui l'emporte parfois sur le remède. En principe, le yoga doit nous permettre de diriger le mental, mais comme il s'avère que ce système n'était pas praticable pour un homme plongé dans les affaires du monde, pour un homme comme Arjuna, il le sera encore moins pour l'homme moderne. La comparaison dans ce verset entre le mental et le vent est tout à fait juste, car on ne peut contenir un vent violent. Et il est plus malaisé encore de juguler le mental. Toutefois, Chaitanya Mahaprabhu nous a donné le moyen le plus simple d'y parvenir, chanter ou réciter humblement Hare Krishna, le grand mantra de la délivrance. La méthode prescrite est Shaveimanaha Krishna Padaravindadayoho. Il faut pleinement absorber son mental en Krishna, alors seulement sera-t-on affranchi de tout ce qui peut agiter le mental. Dans la vie, il y a une seule vraie ligne à suivre. Ligne à suivre va de pair avec juridiction. La seule ligne à suivre est celle de la conscience de Krishna. Soit on est pile avec, soit on ne l'est pas du tout. La juridiction de la conscience de Krishna est omniprésente en tout temps et espace, partout. Tout le temps. Sous cette juridiction, c'est littéralement l'atmosphère de Vaikuntha, l'atmosphère dépourvue de toute forme d'angoisse ou de quelque agitation que ce soit, mentalement parlant. Au clair, c'est la paix immuable, délectable au plus haut degré, due à la compagnie sublime de Dieu, la personne suprême, en personne dans sa juridiction. La juridiction de Dieu est universelle et globale. Il revient aux êtres vivants de le connaître et de déterminer de le vénérer de tout cœur ou de l'oublier et sombrer ainsi dans un abîme d'illusions. Ils sont aussi maîtres de leur destinée.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Dans la question, là,
Oui.
est-ce qu'on peut identifier le Mahamantra et toutes les autres aussi, genre de yoga, tout ça, c'est comme faire des différents poids pour faire des muscles. Le Mahamantra, c'est des muscles cerveau. Les autres, c'est des muscles directement reliés au corps. C'est-à-dire, mais sans cerveau, ça dépend de l'utilité que ça va donner. C'est comme, plus on fait du focusing avec le nom et tout ça, plus le muscle se développe et plus on a du pouvoir à naviguer dans le monde matériel qui est vraiment, comme on dit, plus dur que le vent à contrôler.
Ouais, c'est une façon de voir. Une façon de voir. On va se référer à la page 124, la citation, ligne 8, 9. La méthode prescrite est Savai Mana Krishna Padaravindayo. Ça, c'est un extrait d'un verset qui décrivait Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish, c'est un grand roi, très occupé, mais il a su, disons, avoir son mental fixé sur Krishna. Et comme c'est dit ici, Savai Mana, Mana le mental, Krishna Pada. C'est-à-dire les pieds pareils au lotus de Krishna. Son mental était toujours fixé sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Alors, ça, c'est ce qui fait la différence entre pratiquer une quelconque tentative de maîtrise du mental. Alors, comme c'est dit ici, par Prabhupada, page 123, il peut se montrer superficiellement impartial, on parle d'un matérialiste, hein, ou n'importe qui, là, superficiellement impartial envers amis et ennemis, mais au vrai, nul matérialiste ne possède un tel équilibre mental plus difficile à obtenir que de maîtriser un vent déchaîné. Et on parle aussi, c'est quelle est la position du mental par rapport à l'intelligence? Si on pose la question, c'est quoi la relation entre l'intelligence et le mental?
L'intelligence est le supérieur au mental. Le mental doit être soumis à l'intelligence.
Exact. Et supérieur à l'intelligence, c'est quoi?
L'ego,
La
le moi,
conscience.
la conscience.
C'est l'âme.
L'âme, oui.
L'âme spirituelle. Alors, la beauté de la conscience de Krishna, on a dit ici aussi que la juridiction de la conscience de Krishna est omniprésente en tout temps et espace. Partout, tout le temps. Alors, qui peut donner un exemple de la juridiction de la conscience de Krishna en dehors de l'atmosphère de la Terre?
Qu'est-ce que ça veut dire, juridiction? C'est quoi au juste?
Juridiction, ça veut dire, disons, la sphère englobée pertinente à telle chose, le domaine de, si tu veux.
Okay.
Alors, comme, moi, ouais, c'est ça. Comme par exemple, la police. Bon, ben, il y a la police provinciale. Elle, sa juridiction, c'est la province au complet.
Ah, OK.
Ensuite, il y a la police municipale qui, elle, étant son cadre, c'est la ville pour laquelle elle travaille. Alors, comme mettons la police de Longueuil, la police de Montréal, la police de telle ville, de New York, la police de Paris, etc. Il y a une juridiction. Alors là, on demande un exemple de la juridiction de la conscience de Krishna.
C'est
En
des...
dehors de la terre.
Mais ça se peut pas, c'est tout.
Bon, ça c'est une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Vous donnez votre langue au chat.
Ouais, parce que j'ai pas trop d'un.
Non, moi non
Je...
plus.
OK.
J'aurais répondu comme
Alors,
Madame Ananda.
en
C'est tellement,
dehors de...
c'est infini que on peut pas limiter à une juridiction.
Bon, on repose la question. Une application de la juridiction de la conscience de Krishna en dehors de l'atmosphère terrestre. On t'entend pas, Madame Ananda.
Les demi-dieux, je veux dire, si on prend Indra, qui est le dieu dire, du ciel, de la pluie, tout ça, t'as Surya qui est le soleil, c'est tout des différents, ils ont tous leur job à faire comme dans leur monde.
Oui, c'est une bonne réponse, mais il y a une autre, disons, il y a d'autres réponses qui peuvent être possibles, là. Alors, je vous amène mon exemple. Pas personnel, là, mais un exemple auquel je pense. Alors, par exemple, lorsque les fameux astronautes vont dans l'espace, peu importe leur mission, est-ce qu'ils doivent penser à Krishna ou pas?
Ils n'ont pas le choix. S'ils sont un petit peu direction divine, ils vont voir beaucoup plus ce qu'on voit sur la Terre, l'immensité du Créateur.
Oui, ça c'est bien parce qu'il y en a qui font des commentaires à cet effet-là. Toi, ils disent, par exemple, on n'a jamais vu une beauté aussi grande, etc., etc. Mais comme on vient de lire et dire ici, la juridiction de la conscience de Krishna est partout, peu importe le temps, peu importe l'espace. Alors qu'on aille sur la planète Mars, de la Terre à la planète Mars, supposons qu'ils sont capables de faire ça. Mais en chemin, mettons que c'est des dévots conscients de Krishna, là, qui sont dans la fusée, dans la capsule. Les dévots vont chanter avec Krishna. Parce que Krishna est là. Ils sont conscients de Krishna. Et alors, les astronautes ou n'importe qui d'autre, eux autres aussi, Krishna est là. Mais ça dépend de leur conscience. Mais le fait est que peu importe où on puisse aller, Krishna est toujours là et l'application de la conscience de Krishna peut toujours être appliquée. C'est une question de vision, une question de conscience, à savoir est-ce qu'on est conscient de Krishna ou on n'est pas conscient de Krishna. Si on est conscient de Krishna, on va réussir à faire le lien. Des observations quelconques, X, Y, Z, avec Krishna. Krishna est omniprésent, il est partout présent, et ça ne change jamais. Ça, c'est la conscience de Krishna. C'est partout, en tout temps, c'est universel, peu importe où qu'on puisse aller. Et que faut-il dire? Au-delà du monde matériel, il y a le monde Vaikuntha, il y a le monde la planète de Krishna, où là, c'est 100% conscient de Krishna. Alors, la conscience de Krishna est applicable tout partout, tout le temps. Et un endroit où on peut avoir une expérience pratique, obligée, juste par le simple fait d'être présent, avoir une expérience pratique de la conscience de Krishna, c'est dans les lieux saints où Krishna a été quand il était sur la planète. Alors, quel est l'endroit préféré de Krishna dans l'univers?
Vrindavan.
Vrindavan, justement. Alors, si on va à Vrindavan, vous pouvez pas, si vous êtes un moindrement conscient de Krishna, vous pouvez pas mettre un pas en avant de l'autre sans vous rappeler de Krishna. C'est la magie, si on peut dire, de la puissance du saint lieu comme Vrindavan, de toujours penser à Krishna d'une façon ou d'une autre lorsqu'on est dans ce lieu-là. Alors, lorsqu'on est à Vrindavan, disons en tant qu'occidental, on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas grandi là, on n'est pas né là-bas. Alors, il y a toujours des dévots locaux qui vont s'offrir pour visiter les dévots de l'extérieur. Et eux autres, surtout ceux qui ont grandi à Vrindavan, ils en ont plein de choses à dire. Ah, tel endroit Krishna a fait ci, tel autre endroit Krishna a fait ça. Puis ainsi, on peut devenir conscient de Krishna simplement en étant présent dans un lieu saint comme Vrindavan. Alors évidemment, il y a des descriptions des écritures révélées comme Srimad Bhagavatam ou Chaitanya Charitamrita ou la Bhagavad Gita qui décrivent les divertissements de Krishna, les enseignements de Krishna. Alors lorsqu'on visite ces endroits-là, on devient conscient de Krishna par la grâce de Krishna. Et notre vision spirituelle est éveillée par la puissance des saints lieux et évidemment par le chant des saints noms, Hare Krishna Mantra, tout ça rentre en ligne de compte. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste pour la dernière chose que vous dites, le Mahamantra Hare Krishna et
oui.
Les lieux, est-ce que peut-on dire qu'ils sont égaux dans l'énergie de présence de Krishna qu'on peut sentir? Bon. Peut-on dire que c'est dans la même parallèle?
Tu parles des lieux, là?
Des lieux et le Mahamantra Hare Krishna.
Il n'y a pas de différence.
C'est égal, c'est dans la même
oui,
catégorie.
Oui, comme Prabhupada l'écrit dans ses livres, il dit qu'il n'y a pas de différence entre les noms, la forme, les qualités, l'entourage de Krishna, les compagnons, les compagnes de Krishna. C'est pas qu'ils sont égales à Krishna, mais disons, quand Prabhupada donne l'exemple d'un roi qui ne voyage jamais seul, le roi vient pas seul. Il vient avec ses serviteurs, il vient avec ses ministres, on peut dire. Il vient avec son entourage. Alors, de la même façon, quand Krishna vient, il ne vient pas seul. Et quand Krishna vient, il envoie, disons, ses compagnons, ses compagnes éternelles, avant même que lui arrive. Et c'est ainsi que ça fonctionne quand Krishna vient. Il l'a déjà envoyé. Alors, quand on lit dans le livre de Krishna que avant que Krishna apparaisse, ça c'est le tout début du livre de Krishna, et Krishna apparaît, c'est le titre du chapitre. Alors, avant que Krishna apparaisse, les demi-dieux avaient déjà commencé pour assister le Seigneur Krishna dans ses divertissements sur Terre. C'est comme ça que Krishna arrange les choses. Et quand Krishna s'en va, c'est la même chose. Les associés s'en vont aussi avec Krishna. C'est tout ça, c'est transcendantal. Et ça montre que que Krishna est tellement puissant, tellement le contrôleur suprême que nous, si on, quand on s'en va, où est-ce qu'on s'en va? Ça, c'est une autre paire de manches. Si on est conscient de Krishna, on retourne à Krishna. Si on n'est pas conscient de Krishna, on reprendra un autre corps. Et par la grâce de Krishna, on peut espérer avoir une autre chance de recontinuer avec la conscience de Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste une petite chose encore. Alors, tous les ambassadeurs, je s'appelle, là, qui, du Seigneur Krishna, qui viennent sur la terre, ils ont toutes des préparations comme Krishna, veut dire, sont pas exactement à la même grandeur, mais comme Jésus-Christ est venu, il y a Pierre qui il parlait de lui, là, non, Jean-Baptiste, il parlait de lui avant qu'il vienne. Seigneur Chaitanya est venu, il était déjà en préparation, veut dire, il y a du monde qui l'attendait. Alors, c'est ils sont comme Krishna, mais en petite... la puissance est la même, mais Krishna, c'est toute la terre qui bouge. Puis les autres, c'est juste le village ou le deux, trois pays, quatre pays, dizaines, pas tout le monde. Là. Mais non, tout le monde en parle. Tout le monde en parle.
Ouais, mais disons, dans le cas de Jésus, quand même, il y avait une étoile spéciale qui indiquait le lieu de naissance de Jésus. Alors, ça dépend des personnalités. Mais en général, ceux qui sont des incarnations de Dieu, et il y a différentes incarnations de Dieu, mais dans le cas de Jésus, c'est ce qu'on appelle un Shaktyavesh Avatar. C'est pas Krishna lui-même, c'est le Fils de Dieu. Et il est décrit dans les Écritures, en particulier le Bhavishya Purana. Jésus est décrit dans cette Purana. Pas une tonne, mais juste assez pour identifier que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, une âme spéciale. Et dans le Bhavishya Purana, il y a une description d'un roi qui rencontre Jésus en personne. Il y a une description de son physique. Et c'est très intéressant. C'est dans le Bhavishya Purana. Attends une minute, où c'est que j'ai ça, donc?
Jésus était noir. C'était pas un blanc. Là.
Ben, moi, j'ai pas lu qu'il était noir. D'où c'est que
ben,
t'as
il
pris
était
ça?
Pas blanc. Il était pas blanc. Il y avait pas tellement d'immigration de blancs dans ce temps-là. Là, à Judaïe, puis dans l'Égypte, tout ça, là, c'était foncé, là, un peu, là. Peut-être pas des noirs, noirs, là. Ben, il disait qu'il y avait des cheveux frisés comme des noirs. Non, j'ai lu, moi.
Ah bon? J'ai jamais dit ça.
Il est mort au Cachemire, à l'âge de 80 quelques années. Puis sa tombe est encore là, on peut la chercher, là.
Ouais, ouais,
Beaucoup de choses,
okay.
Là.
Au Cachemire, ouais, effectivement. Oui. Ouais. Alors, il avait une mission. Et Prabhupada disait qu'il avait une mission, et sa mission, c'était d'élever les gens au mode de la vertu. Ça, c'était sa mission. Alors, c'était pas sa mission de prêcher la conscience de Krishna spécifiquement, mais assez pour élever les gens de son époque à un autre niveau de conscience pour qu'ils deviennent, disons, vertueux, avoir une bonne vie. Et ça, même aujourd'hui, là, l'histoire n'est pas finie, là. Ça prend beaucoup pour élever des gens qui, à journée longue, ne sont pas dans la vertu. Alors, leur faire avaler la pilule pour qu'ils s'élèvent à la vertu, ça, c'est une autre histoire. Alors, en quelque part, il y a un lien qui est offert à toutes sortes de gens de profiter de la présence du mouvement pour la conscience de Krishna pour s'élever davantage. Sans le mouvement, la conscience de Krishna, là, disons que le monde s'en va pas bien, bien loin. Ça lève pas haut, la conscience. Alors, comment est-ce qu'on peut voir que le mouvement pour la conscience de Krishna exerce un effet? Comment est-ce qu'on peut voir? Une question.
Ouais. La forme visuelle d'un dévot sur sa face, il est pas trop dans le stress, il sourit, il a du bonheur, il doit l'avoir quelque place, doit le prendre. C'est pas dans le monde matériel, là, ils sont tous temporaires.
Là. Oui. Et quoi d'autre?
Il est sans peur et sans crainte?
Pardon?
Sans peur et sans crainte, en fait. Il est sans peur et sans crainte.
Je ne comprends pas bien ce foutu téléphone qui sonne de
Il n'a pas
temps.
Peur, il n'a pas de crainte.
Oui, il n'a pas de crainte.
Il n'a pas de peur.
Mais disons, oui, ça c'est bien. Mais disons que c'est négatif. OK, mais qu'est-ce qu'il a, le dévot?
Il y a la grâce de Krishna pour
Oui.
Lui donner cette conscience, d'être conscient de lui. C'est
Oui.
pas ça.
Tout ça,
Pas
c'est
sa
bon.
grâce.
Tout ça, c'est bon.
Il a
Alors?
beaucoup de compassion. Il a beaucoup de compassion.
Oui. Le dévot développe des bonnes qualités.
Oui.
C'est ça qui fait la différence entre ne pas être un dévot et être un dévot. Que le dévot développe des bonnes qualités, chose qu'il n'avait pas peut-être nécessairement avant, mais parce qu'il a accepté de pratiquer la conscience de Krishna, les qualités divines se manifestent chez un dévot ou une dévote. Alors, les qualités, dont la compassion, ça va faire partie de son développement. La compassion pour les autres êtres vivants. Et un dévot, par exemple, est non-violent par nature, parce que le dévot comprend, on est une âme spirituelle, l'âme est consciente, et quel intérêt peut-on avoir à faire souffrir d'autres entités vivantes? Et les non-dévots peuvent penser ce qu'ils veulent, mais quand on les regarde aller, là, il leur manque beaucoup de choses entre les deux oreilles pour, justement, le simple fait, justement, de manger la viande, de pas se rendre compte quel va être le karma qui les attend pour ça et dans quoi ils sont impliqués. Du fait de manger de la viande, ils sont aussi coupables que ceux qui tuent les animaux et ils vont essuyer le même karma que ceux qui tuent les animaux. Et peu importe si ils disent, ben oui, selon notre écriture, c'est correct de manger de la viande. Ça passe pas, ça non plus. Mais pour eux autres, ça passe. Alors, dans les écrits védiques, disons, tuer les animaux, c'est à une condition. Quelle est cette condition?
On est des chatriyas.
Non, lors de sacrifices particuliers.
Si on est
Ouais.
capable de faire transmigrer l'âme, c'est ça? Je pense, il n'y a pas quelque
Ça
chose comme ça.
Brode autour, mais faut arriver à comprendre, là. Alors, dans les écrits védiques, quelqu'un peut tuer un animal, comme un brahmana, par exemple, peut tuer un animal, mais à une condition. Ça, c'est, la condition, c'est, écoutez bien ça, là. C'est assez spécial, merci. Ça fait toute la différence. À condition d'être capable de remettre la vie, de redonner la vie à cet animal qui a été tué. Ça, c'est
Comment?
la condition.
C'est impossible.
Non, c'est impossible.
C'est
Alors,
possible.
oui, c'est possible. Pas dans l'âge de Kali, mais avant l'âge de Kali, les Brahmins, mettons, allaient sacrifier une vieille vache ou un vieux cheval, et à l'aide de mantras védiques, ils redonnaient la vie, une vie, une meilleure vie, comme une vie jeune, une jeune vie à l'animal en question. Alors, vu qu'ils redonnaient la vie, c'était pas considéré comme tuer l'animal. Est-ce que c'est clair?
Mais il mourrait pas parce qu'il reprenait une vie instantanée, du genre, là. Alors,
En tout
c'est
cas,
pas comme tuer.
il devait mourir un petit peu, mais les brahmanas étaient capables de leur redonner la vie. Ça, je viens de lire ça, là. Il y a quelques jours
Dans
de
quel
ça.
âge c'était l'âge
Ben, ça devait être dans l'âge de Dwapara ou dans l'âge de Kali, ça c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de brahmin qualifié pour réciter les mantras adéquatement. Mais dans d'autres âges, c'était possible. Mais ça, c'est la condition. Alors, dans l'âge de Kali, par exemple, tu as des écrits qui sont faits exprès pour les mangeurs de viande. Alors, un écrit en particulier bien célèbre, bien populaire, c'est la Bible. Le Coran aussi. Alors, c'est pour les mangeurs de viande. Alors, dans la Bible, tu as cette injonction qui dit, tu ne tueras point. Alors, même ça, c'est tellement simple que ça rentre pas dans le coco, ça, de la majorité des gens. Pourtant, c'est simple, simple, simple. Alors, en fait, les
Mais
gens
il
qui
y a du monde qui
pratiquent.
détourne ça.
Non, mais
Oui.
il y a aussi le problème, c'est que dans les religions que tu viens de citer là, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'est l'âme distincte, un être vivant? Parce que, en fait, c'est ça le problème. C'est que tant qu'on ne sait pas qui on est et qui sont les autres qui nous entourent, et que en fait les corps c'est juste des vêtements, c'est difficile de pouvoir concevoir autre chose que le fait qu'on est l'être supérieur à l'humain et que les animaux qui sont sous notre, enfin sous nous en fait, et on a le droit de faire ce qu'on veut avec puisque on a Dieu les a mis là pour nous, c'est écrit dans la Bible aussi. Les animaux sont là pour le plaisir des hommes, et on n'est pas aussi dans des religions où
Non, 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 non. Oui, je comprends ce que tu viens de dire. C'est la compréhension générale.
c'est ça, et c'est ça qui fausse tout en fait, parce que quand
Non,
tu...
un moment. C'est pas parce que c'est une compréhension généralement acceptée que c'est juste.
Ah non, c'est pas juste du tout. J'ai jamais dit
Alors.
que c'était juste, mais j'ai dit c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, tout tourne autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent religieux, mais comme tu disais, ils sont pas dans la vertu. Donc tu peux pas te dire religieux si tu es pas dans la vertu, au
Exact.
minima.
Alors, dans les livres de Srila Prabhupada, Prabhupada explique quand il explique ce concept-là que les gens vont penser, ah, les animaux sont inférieurs aux êtres humains, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Ça, c'est la compréhension générale, mais qui est erronée. Prabhupada, lui, ce qu'il explique, tous les êtres vivants, humains ou non humains, sont tous comme des frères, nos frères. Et c'est le devoir du roi en particulier d'accorder protection à tous les êtres qui sont dans son royaume. Alors en particulier, mettons les vaches, c'est considéré comme une mère parce que les êtres humains boivent le lait de la vache et les bœufs sont considérés comme des pères parce qu'ils servent à cultiver les grains, les céréales, la production des grains et céréales. Alors, les animaux sont faits pour être protégés, mais ça fait pas partie de la compréhension générale dans la société. Alors, les gens pensent qu'on peut faire n'importe quoi, alors interprète la Bible, ce passage qui dit que Dieu a donné les animaux, tout ça, pour les dominer. C'est pas pour les dominer, c'est pour les protéger. Alors, les dominer, si on peut dire, dominer en tant que maître de, ben, c'est aussi la position du maître de protéger. Avant de massacrer, sa vraie position, c'est de protéger. Alors, c'est comme, par exemple, aujourd'hui, la conscience est tellement dégradée. Les êtres humains ont des enfants, mais ils pratiquent l'avortement. Alors, même les petits-enfants, même pas nés, sont pas protégés. Et c'est comme ça, c'est tellement aberrant que dans les pays maintenant, les gouvernements, c'est comme une mode.
Il paye pour
Il faut que
l'avortement.
le gouvernement approuve l'avortement. Et s'il désapprouve l'avortement, à ce moment-là, les gens vont se détourner.
Manifester. Ils se manifestent, ils sont fâchés.
Ouais.
Et en France, ils ont inscrit dans la Constitution française l'année dernière le droit d'avorter pour toute femme. C'est une liberté. Voilà. Donc
Ouais.
aujourd'hui, n'importe quel président qui arrivera et qui voudra l'enlever ne pourra pas le faire, en fait. Et tout le monde a crié que c'était vraiment une avancée dans l'évolution de l'humanité, quoi. Donc, il n'y a
Ouais.
pas moyen, hein, dans les masses, c'est vraiment une incompréhension totale du sens vrai, véritable de l'existence, en fait.
Ouais. Puis ici au Québec, ils veulent faire la même chose. Ils veulent amener une loi qui justement fait passer dans la loi que l'avortement, c'est le droit des femmes. Alors,
Terrible.
c'est pas brillant. Alors,
Non, c'est le
c'est pas
Kali Yuga.
exactement, c'est le Kali
Et plus on
Yuga.
avance dedans, et plus ces lois-là, elles vont devenir de plus en plus, pour nous, c'est de plus en plus hallucinant que l'humanité tourne vers ça, mais pour eux, c'est de plus en plus normal de tourner vers ça, en fait.
Ouais.
C'est comme le droit à mourir, c'est pareil, quelle histoire de droit à mourir, quoi, où les gens vont prendre une piqûre parce qu'ils en ont marre avec la vie.
Ouais, mais ça, ils sont pas sortis du bois parce que la prochaine vie qui les attend, ils n'auront pas de corps grossier. Ils vont avoir un corps subtil seulement, ils vont souffrir encore plus que ce qu'ils expérimentent dans la vie présente.
Ils disent que ça dure jusqu'à quand la Terre soit complètement avant anéantie, un corps subtil, veut dire la personne qui se suicide, veut dire elle n'aura pas de corps jusqu'à quand la Terre disparaît. Ou
Ça, je
c'est
ne sais pas combien de temps, mais
ça dure longtemps.
ça dure longtemps. Et ils ont les mêmes, ce que Prabhupada explique, ils ont les mêmes désirs, mais ils n'ont pas les capacités pour satisfaire leurs désirs. Alors, c'est un peu frustrant, c'est bon, ça. Tu sais, quand tu mènes une vie ordinaire, tu penses à certaines choses. Est-ce que je peux avoir telle chose ou telle chose? Telle autre chose, je ne peux pas l'avoir, ça je le sais d'avance, j'ai pas les moyens ou c'est impossible. Mais là, c'est du impossible pour tout. Ça, c'est
Mais c'est
dur.
là qu'ils cherchent des entités à rentrer dans leur corps pour vivre leur désir.
Exactement.
Pour ça, ceux qui sont trop intoxiqués, il y a beaucoup d'entités qui vont essayer de prendre leur corps, entre-temps qu'ils sont pas là. T'sais.
Ouais, c'est ça. Alors, Prabhupada disait justement, ces fantômes-là sont toujours avides de donner du trouble aux autres entités vivantes. Ah non, c'est ça. Alors, on va continuer si ça ne vous dérange pas. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Alors, on était à la ligne 23, hein, c'est ça?
Ouais.
Ok. Merci. La ligne est fine entre la vérité absolue et l'illusion. Cette ligne peut prendre des millions d'années avant avant de la retrouver, ou un instant d'acceptation sincère de l'existence de Dieu dans sa forme éternelle originelle de Krishna. Connaître Krishna est totalement libérateur du joug de la matière. Autrement, c'est, tel qu'il est dit dans la Bhagavad Gita 15.7, c'est la lutte avec les sens incluant l'ennemi dominant que peut être un mental toujours vacillant. Mamai vaimso jiva loke jiva bhuta sana tanaha mana sa shat nindri yani prakriti shatni kalsyati mama me eva certes amsa fragment jiva loke dans le monde de l'existence conditionnée jiva bhuta l'être conditionné Sanatana éternel, mana avec le mental, sashtani les six, indriyani sens, prakriti dans la nature matérielle, shtani situé, karsyati lutte durement. Les êtres en ce monde matériel sont des fragments éternels de ma personne, mais parce qu'ils sont conditionnés, il lutte avec acharnement contre les six sens et parmi eux le mental. Teneur et portée. Ce verset définit clairement l'identité de l'être distinct. Il est de toute éternité un fragment infime du Seigneur suprême. Ce n'est pas qu'une fois la libération obtenue, il perd cette individualité pour ne faire qu'un avec le Seigneur. Certes non. Il demeure éternellement une parcelle du Seigneur, comme le souligne du reste le mot Sanatana. Dans les écritures védiques, le Seigneur suprême se manifeste et se multiplie en d'innombrables émanations. Les émanations immédiates portent le nom de Vishnu Tattva et les secondaires celui de Jiva Tattva. Autrement dit, les émanations Vishnu Tattva sont ces émanations personnelles alors que les êtres vivants sont des émanations distinctes de sa personne. Par le biais des premières, ils se manifestent en des formes variées, telles que Vishnumurti, Rama, Nishimadev et toutes les émanations plénières régnant sur les planètes Vaikuntha. Les émanations distinctes du Seigneur, les êtres vivants, sont pour leur part ses serviteurs éternels. Les émanations personnelles de Dieu, la personne suprême, ces formes individuelles existent éternellement, et de même, les émanations distinctes sont éternellement individuelles. Parce qu'ils font partie intégrante du Seigneur, les êtres distincts possèdent même en quantité infime, les mêmes attributs que lui, parmi lesquels l'indépendance. Chaque être est une âme distincte, pourvue d'une individualité propre, ainsi que d'une infime part d'indépendance. Qu'il fasse un mauvais usage de cette indépendance, et il devra connaître ce que l'on appelle état conditionné, l'état conditionné. Mais qu'il en fasse bon usage, et il demeurera à jamais à l'état libéré. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, il est éternel, tout comme l'est le Seigneur. À l'état libéré, il n'est plus soumis aux conditions matérielles, et prend activement part au service absolu du Seigneur. À l'état conditionné, il est dominé par les trois gunas et oublie le service de dévotion au Seigneur. Il doit alors lutter pour le simple maintien de son existence dans l'univers matériel. Les êtres, non seulement les hommes, les chats et les chiens, mais aussi les plus grands maîtres de l'univers, Brahma, Shiva et même Vishnu, font tous partie intégrante du Seigneur suprême. Tous sont éternels et non des manifestations éphémères. Le mot karsyati, lutter durement, qu'emploie ici notre verset, est lourd de sens. L'âme conditionnée est retenue à la matière par le faux ego, comme par des chaînes d'acier. Et le mental est le principal agent responsable de ces pérégrinations dans le monde matériel. Lorsque la vertu gouverne son mental, ses actes s'imprègnent de droiture. Quand la passion domine, Ces actes sont source d'angoisse. Et quand prévaut l'ignorance, elle doit errer dans les espèces de vie inférieures. Ce verset est formel. L'âme conditionnée a revêtu un corps matériel qui inclut des sens et un mental. Toutefois, la libération obtenue, cette enveloppe matérielle périt et le corps spirituel, lui, se manifeste alors dans son caractère propre. On apprend à ce propos dans la Madhyandi Nayana Shruti, Sava Esha Brahma Nishta, Idam Sariram Martyam Atish Rijya, Brahma Bishampadya, Brahmana, Pashyati Brahmana, Shrinoti, Brahmana Nevedam, Sarvam, Anu Bhavati. Ce passage enseigne que lorsque l'âme quitte le corps matériel pour entrer dans le monde spirituel, elle ravive son corps spirituel et peut ainsi voir Dieu, la personne suprême, face à face. Elle peut directement l'entendre, lui parler, le connaître tel qu'il est. La Smriti enseigne également Vashanti Yatra Purusha Sarve Vaikuntha Murtaya. Sur les planètes spirituelles, tous les êtres sont dotés de corps aux caractéristiques semblables à celles du Seigneur suprême. Il n'y a, en ce qui concerne la nature des corps spirituels, aucune différence entre les êtres distincts et les émanations Vishnu-Tattva. À la libération, l'être distinct obtient donc, par la grâce de Dieu, un corps spirituel. Le mot Mamaivamsa, infime fragment du Seigneur suprême, revêt lui aussi une grande importance. Un fragment du Seigneur ne ressemble en rien au fragment d'un objet matériel qu'on aurait brisé. Le deuxième chapitre nous a déjà montré que jamais l'âme spirituelle ne peut être coupée en morceaux. Les fragments dont parle notre verset ne sont pas structurés comme la matière. Ils ne peuvent être divisés et assemblés à nouveau. L'usage ici du mot sanskrit sanatana, éternel, ne peut laisser aucun doute. Cet infime fragment est éternel. Dans le deuxième chapitre, on a également appris qu'un fragment infime du Seigneur suprême habite individuellement chaque corps, deinosmin yata dee. Et quand ce fragment parvient à se libérer du corps matériel, il ravive son corps spirituel originel pour jouir de la compagnie du Seigneur sur l'une des planètes du monde spirituel. Bien entendu, parce qu'il est une infime partie de sa personne, l'être distinct lui est qualitativement égal, tout comme les paillettes d'or sont également de l'or. Tel que Krishna l'affirme dans la Bhagavad Gita 7.14, il est très difficile de surmonter cette divine énergie que constituent les trois gunas, mais qui s'abandonne à moi en triomphe aisément. La ligne à suivre est donc celle de l'abandon à Krishna. Si oui, c'est la paix. La lutte pour l'existence est terminée. La vie ne devient qu'une série d'offrandes offertes ou sacrifices par amour à Dieu, la personne suprême. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les devas, l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Que vouloir plus que ça? Il n'y a absolument rien d'autre à chercher que désormais le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême.
Jai.
Jai.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, la dernière citation, là, parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, etc., etc. Ça, c'est un verset de la Bhagavad Gita, au chapitre 5, verset 29. Disons, ça aurait pu être inscrit dans le texte, mais ça a été oublié, mais là je le dis. Alors, chapitre 5, verset 29. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, Krishna dit ici, qu'est-ce qui se passe pour les âmes qui ne sont pas conscientes de Krishna? Qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est bon gré, mal gré. Plus mal gré que bon gré, là. Qu'est-ce qui arrive?
La fréquence de la joie et la douleur sont plus intenses.
Oui. Mais selon la Bhagavad Gita, qu'est-ce qui arrive? Chapitre 15, verset 7. Les êtres en ce monde matériel sont des fragments éternels de ma personne, mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens et parmi eux le mental. Alors, ça, c'est la vie conditionnée, la vie matérielle, que tout le monde est fourvoyé par son mental, tout le monde est dans une lutte, à savoir les demandes des sens. Les matérialistes, par rapport à leurs sens, comment ils sont?
Anxiété.
Oui. Comment les matérialistes voient-ils leur sens?
Comme quelque chose, comme un outil pour pouvoir jouir des choses.
Exactement. Pour les autres, c'est de un, à cause du
Profiter,
faux
prendre
ego.
plaisir, en fait. Profiter, prendre plaisir.
Ouais. Alors, à cause du faux ego, ils s'identifient avec leur corps et ils pensent ça, c'est moi. Alors, par exemple, pas moi, si la langue veut quelque chose, ils pensent que c'est bien d'accorder pleine liberté à la langue de manger n'importe quoi. C'est quoi leur critère quand les matérialistes mangent quelque chose? Sur quoi ils se basent?
Le goût.
Sur le goût, justement. Si ça goûte bon, c'est correct.
Voilà, c'est pas bon, c'est pas
C'est pas bon, pas mangeable, c'est pas bon.
les légumes, c'est pas bon, mais un bon steak bien grillé, c'est super bon. Voilà,
Exactement.
c'est
Et
on a tous vécu.
etc., etc. Alors, vive la cuisine française avec toute sa variété de plats. Et il n'y a pas juste la cuisine française, il y en a d'autres, là, qu'on ne connaît pas nécessairement, mais c'est du pareil au
Italiens,
même.
là, les Italiens sont pas mal comme les Français,
Toutes
là.
les cuisines, toutes les cuisines. Trouve-moi
Oui,
une
c'est
cuisine
ça, toutes
où
les
il n'y a pas
cuisines.
de la... même en Inde, ils mangent tout et n'importe quoi dans certains endroits. Moi, j'ai vu des émissions, tu te dis, waouh, laisse tomber. C'est non, partout, partout, en Asie, j'ai vu dans l'Amérique du Sud, ils mangent des cochons d'Inde bouillis, enfin, bien des trucs. L'humanité marche sur la tête. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas, pour moi, un peuple qui ne mange, qui ne fasse pas souffrir des animaux pour manger leur corps, en fait.
Ouais, ça c'est typique de l'âge de Kali. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, comme Prabhupada dit, pour maîtriser la langue. Alors, c'est Srila Bhaktivinoda Thakur qui dit, c'est très difficile de contrôler la langue. Mais on peut arriver à contrôler la langue de quelle façon?
Mangeant du prashad.
En lui offrant seulement du prasad. À ce moment-là, la langue va être contrôlée. En d'autres mots, faut pas tomber dans une conscience, disons, qui est séparée de la conscience de Krishna. Alors, on peut pas manger, disons, quelque chose qui n'est pas prasad. Si on est conscient de Krishna, ça marche pas. Et si on n'est pas conscient de Krishna, on va manger n'importe quoi, mais pour un dévot, ça tourne pas rond, ça. Pour un dévot, c'est évident, c'est l'évidence même de manger du prasad, d'offrir sa nourriture à Krishna. Mais pour les autres personnes, c'est pas cette mentalité-là du tout. C'est moi et mon plaisir, et puis qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est bien important. Et ça marche pas comme ça dans la conscience de Krishna. C'est le plaisir de Krishna d'abord, et après, notre plaisir. Et quand on fonctionne dans cette conscience-là, qu'est-ce qui arrive?
Bah,
On
on
se
est bien.
purifie. On se
Pardon?
purifie.
T'as un à la fois, là?
Vas-y, madame. Pardon,
Non,
mais...
vas-y, vas-y, vas-y. Ça me
On se
semble.
purifie.
On se purifie, oui. Mais c'est quoi le feeling?
Sans animer,
On
je
sent
veux
bien.
dire.
On est satisfait.
On est heureux.
Oui,
Voilà, oui.
on est satisfait. Quand Krishna est satisfait, on est satisfait. Et si Krishna n'est pas satisfait, on peut pas être satisfait. C'est comme... Parce que le plaisir de l'être vivant, c'est de rendre service à Krishna et de connaître le bonheur, le plaisir de lui rendre service. C'est très simple, en fait, la conscience de Krishna. C'est faire plaisir à Krishna. Et puis, si on arrive à faire plaisir à Krishna, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a même pas à chercher justement, on va se sentir bien, si on va être heureux. T'sais? Les gens peuvent dire, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, les gens peuvent dire, je me sens pas bien dans ma peau. C'est pas vrai, ça? Alors, c'est la conscience de Krishna, c'est la meilleure chose à faire la meilleure chose à pratiquer sous le soleil, la conscience de Krishna.
Mais s'ils
Quand...
sentent pas bien, c'est parce que ils ont visé pour le plaisir éphémère dans le monde matériel qui est tout temporaire. Alors, ils ont eu on a qu'est-ce qu'on désire, où est-ce qu'on met notre énergie. Si on la met dans le temporaire, ça va être du bonheur temporaire, mais si on le met dans le monde, bonheur éternel, c'est en donnant, c'est comme la boucle dans l'estomac, tout le corps est heureux. Si on sert le centre, qui est le centre de tout, le bonheur, il est là parce que c'est la volonté du centre. Il n'y a
Oui.
pas de négativité.
Oui. Et pour arriver à ça, ça prend quoi?
La grâce du Seigneur. Un maître
Oui, bien.
spirituel qui te guide vers ça.
Exactement. Ça prend la grâce d'un maître spirituel authentique qui nous guide et qui nous fait découvrir l'art d'être conscient de Krishna. Et on peut pas être conscient de Krishna tout seul sans un maître spirituel pour nous guider. Ça prend un maître spirituel qui nous ouvre les yeux et qui nous guide. Et c'est pourquoi, à un certain moment donné, on s'en remet à sa divine grâce, qui est représentant du Seigneur suprême, puis on est heureux comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est déjà fini.
Ça c'est vite aujourd'hui.
Oui, ça a été vite, oui. Effectivement. Alors, on va continuer la prochaine.
Mercredi. On est
Oui.
mercredi, samedi. Il y a samedi.
OK. Samedi, un autre cours. OK. Alors, samedi, ça va être Ishopanishad. Et l'autre mercredi, ben, on va continuer d'où est-ce qu'on arrête aujourd'hui. Par la grâce de Krishna.
Merci
Alors,
Krishna.
merci.
Juste à finir,
Oui,
Prabhu, je
oui.
vais le dire. Moi, je vois pas de différence entre le mercredi ou le samedi. Je suis désolé, mais je vois pas de différence. Dans l'enseignement, c'est pour moi, c'est une continuité, les deux.
Oui, c'est... Donc, c'est
C'est
des
pas blanc,
lectures.
noir.
Oui, c'est des lectures différentes, mais on peut dire dans un sens comme dans l'autre, c'est pour nous rendre conscients de Krishna. Le potentiel est là, c'est toujours agréable. Et aussi, il y a beaucoup de citations de Prabhupada aussi, qui fait qu'on est en train de s'associer avec Prabhupada, ses enseignements. Puis on essaye juste d'élaborer un peu, en ajouter un petit peu, mais il y a beaucoup de Prabhupada là-dedans, non? Alors, on peut pas se tromper, là, non plus. Alors, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, merci à tout le monde.
Et
Hare
puis, au
Krishna.
plaisir.
Merci beaucoup. Hare Krishna.
Merci, Hare
Hare
Krishna.
Krishna.
À
Merci beaucoup.
samedi, si Dieu
À
le veut.
samedi.
Samedi, allez bon.
Allez,
Allez
bon.
bon.
Allez, bon.
Hare
Bon.
Krishna.
Jai, Hare
Jai Shri
Krishna.
Prabhupada.
Jai.
Jai.
Allez, bon. Jai. Eating.